Radio France Internationale, 18h à Paris, 17h en temps universel, il est 19h à Tel Aviv.
Les mots en piste.
Et les derniers détails, dès le début de ce journal, de ce qui s'apparente à une attaque ce dimanche au nord de Tel Aviv, un camion a percuté une station de bus près d'une base du renseignement israélien, alors que les bombardements pleuvent toujours sur la bande de Gaza et dans le sud du Liban. Aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump continuent de jeter leurs forces dans la bataille électorale. Et les parieurs suivent la campagne avec attention. Cette année, la justice les a autorisés à jouer sur l'élection présidentielle. Et l'un d'entre eux aurait à lui seul inversé la tendance sur le marché. Clap de fin au Vatican sur le synode. Plus de 3 semaines d'échanges entre cardinaux, évêques, mais aussi laïcs du monde entier pour réfléchir à l'avenir de l'Église et des débats qui ont parfois tourné autour de la place des femmes au sein de l'institution. Et puis nous sommes à Cambridge en fin d'édition, où un musée de zoologie propose à ses visiteurs d'échanger avec les animaux grâce à l'intelligence artificielle générative. Direction Tel Aviv, dès le début de ce journal. Ce matin, un camion a foncé sur une station d'autobus au nord de la ville. Selon les dernières informations côté israélien, le bilan est d'au moins un mort et d'une trentaine de blessés. Une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'une attaque terroriste. Dans la foulée, indiquée la police. Les précisions de Michel Paul à Jérusalem.
Un attentat au camion Bélier contre une station d'autobus. Selon la police israélienne, il s'agit bien d'une attaque terroriste, mais les enquêteurs affirment continuer à vérifier toutes les pistes. Le conducteur du camion a été neutralisé par des militaires sur place. Il s'agit d'un arabe israélien originaire du centre du pays. Sa famille affirme qu'il a perdu tout simplement le contrôle de son véhicule en raison d'une maladie dont il souffrait et que ce n'est pas du tout un attentat, mais bel et bien un accident. À retenir aussi le lieu de cette attaque, face à la base de Glilot au nord de Tel Aviv, la principale base du renseignement israélien, c'est ce site qui a été ciblé par des drones du Hezbollah et par des missiles balistiques en provenance d'Iran le 1er octobre dernier. Ils affirmaient viser le siège du Mossad et de la célèbre unité de guerre cybernétique, la 8200. Les médias ont interrompu la diffusion des cérémonies de la journée du souvenir des événements du 7 octobre, qui est marquée aujourd'hui ici en Israël, pour donner cette information. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et en marge de cet épisode, les bombardements israéliens se sont poursuivis et sur la bande de Gaza et sur le Liban. Le ministère de la Santé à Beyrouth annonce la mort d'au moins 8 personnes, 25 autres blessés dans une frappe sur les environs de Saïda, principale ville du sud, relativement épargnée par les violences pour le moment. Le sud du Liban, où l'armée israélienne affirme que 5 de ses soldats sont tombés au combat hier. Le Hezbollah libanais lui assure avoir bombardé le nord de l'État hébreu. Quand dans la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave palestinienne, les secours annoncent la mort d'au moins 9 personnes, dont une enfant, dans une frappe israélienne sur une école transformée en abri pour personnes déplacées. Les victimes de ce bombardement ont été transportées à l'hôpital Al-Shifa de Gazaville. Et il y a quelques minutes, l'Égypte a proposé un cessez-le-feu de 2 jours à Gaza, qui impliquerait l'échange de 4 otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Annonce faite ce dimanche par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. De son côté, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se réunir demain à New York pour évoquer l'attaque israélienne sur l'Iran. Après une demande du chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi, j'ajoute que lors d'un conseil des ministres tenu ce dimanche, le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé que son pays ne cherchait pas la guerre, mais a, je le cite, promis une réponse appropriée. Les États-Unis, où l'élection présidentielle approche à grands pas, Donald Trump va-t-il retrouver la Maison-Blanche ? Kamala Harris va-t-elle passer du siège de vice-présidente à présidente ? Les spéculations sont nombreuses et au-delà des électeurs, ce sont des questions de choix pour les parieurs. Au début du mois d'octobre, la justice a en effet autorisé les citoyens américains à miser de l'argent sur cette élection, un peu à la manière des bookmakers en Grande-Bretagne. La décision concernait une plateforme bien précise, mais les paris vont bon train sur d'autres sites également, qui en théorie n'ont le droit d'accepter que des parieurs étrangers. Justine Fontaine, bonsoir.
Bonsoir.
Un mystérieux utilisateur est soupçonné d'avoir, à lui seul, influencé la courbe des paris en faveur du candidat républicain.
Oui, dans le jargon du secteur, on appelle ça une baleine. Quelqu'un qui dépense tellement d'argent qu'il peut à lui seul inverser ou amplifier une tendance sur le marché. Dans ce cas précis, des internautes ont fait le lien entre plusieurs comptes qui seraient liés à un seul utilisateur et qui ont énormément parié sur une victoire de Donald Trump sur la plateforme Polymarket. 45 millions de dollars en tout. On le rappelle, ces paris ne sont pas un reflet des intentions de vote. Les parieurs répondent en fait peu ou prou à la question suivante. Selon vous, qui a le plus de probabilité de gagner l'élection présidentielle? Et depuis le début du mois, les paris s'envolent en faveur de Trump. 65% ce dimanche sur Polymarket contre 35% pour Kamala Harris. Sauf que les deux autres principales plateformes de paris en ligne donnent plutôt 62% à Trump. 3 points d'écart qui interrogent sur le poids de cet utilisateur mystérieux. Poussé à réagir, Polymarket a révélé jeudi, après une enquête interne, qu'il s'agit d'un Français, mais assure que rien ne laisse penser qu'il a tenté de manipuler le marché.
Et sur cette plateforme en particulier, merci Justine Fontaine, les paris sur l'élection américaine dépassent les 2,5 milliards de dollars, on parle en crypto-monnaie. Par ailleurs, dans les sondages, Donald Trump et Kamala Harris sont donnés au coude à coude dans les intentions de vote, y compris dans les états clés. Donald Trump qui compte ce dimanche soir remplir le mythique Madison Square Garden de New York, alors que Kamala Harris tient un meeting à Philadelphie dans l'état clé de Pennsylvanie. Détour par le Vatican dans ce journal, où le synode vient de s'achever ce dimanche après plus de 3 semaines de travail et de consultations. Cardinaux, évêques et laïcs également du monde entier étaient réunis pour réfléchir à l'avenir de l'Église et sa mission dans le monde. L'un des grands thèmes de ce synode a été celui de la place des femmes au sein d'une institution jugée encore trop patriarcale. Pour autant, pas question pour l'heure d'ordonner des femmes. Précision de notre correspondant au Vatican, Eric Sénanc.
La place des femmes dans l'avenir de l'Église aura été l'un des fils rouges de ce synode. Il n'y a aucune raison ni aucun obstacle qui puisse empêcher les femmes d'exercer des rôles de direction dans l'Église, souligne le document final des travaux, adopté samedi soir. Mais le flou demeure quant à la définition de ces rôles. Ce ne sera en tout cas pas l'ordination diaconale que certains appellent de leurs vœux depuis de longues années. Pour le pape François, la question n'est pas encore mûre pour l'Église. Et le thème du diaconat féminin est traité par une commission à part qui rendra ses conclusions au mois de juin 2025. Exemple de la vivacité des débats en interne, l'article 60 du document final du synode qui évoque justement l'avenir des femmes dans l'Église est celui qui a été le moins bien voté avec 97 voix contre, soit plus d'un quart des participants de l'Assemblée. Les mouvements catholiques féministes, eux, continuent de faire pression. Le 17 octobre dernier, l'une d'entre elles a ordonné symboliquement 3 femmes prêtres sur une péniche amarrée sur les bords du Tibre, à quelques encablures seulement du Vatican. Éric Sénanc, Rome, RFI.
Radio France Internationale, il est 18h08 ici à Paris. Parler avec des animaux, beaucoup en rêver, eh bien c'est désormais possible. À Cambridge, en Angleterre, discuter avec un dodo, débattre avec un panda roux ou avec un cafard. Le musée de zoologie de la petite ville universitaire accueille une exposition dite expérimentale jusqu'au 15 novembre et permet ainsi à ses visiteurs d'interagir avec les squelettes, taxidermie et les reproductions d'animaux. Tout cela est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle générative et l'objectif est de sensibiliser les visiteurs à la protection de la biodiversité. Emeline Vin nous emmène en visite guidée.
Bonjour, je suis Jack Ashby, le directeur adjoint du musée zoologique de Cambridge.
À l'entrée du musée, le dodo fait partie des 13 espèces avec lesquelles les visiteurs peuvent dialoguer.
Nous avons le squelette complet d'un dodo, l'un des plus complets au monde. C'est le symbole de l'extinction animale. Alors on peut scanner le QR code, on ouvre la boîte de dialogue et on peut demander « Pourquoi as-tu disparu ?»
Le logiciel d'intelligence artificielle générative développé par l'entreprise Nature Perspective s'adapte à la langue, à l'âge du visiteur et à ses questions en tout genre.
On a aussi cette famille de cafards. Est-ce que cela vous fait de la peine que les gens ne vous aiment pas?
Merci de ton empathie, Jack. Mais nous, les cafards, nous ne nous embarrassons pas avec ça. Bien que ce ne soit pas agréable d'être détesté, on sait que c'est parce que les gens nous connaissent mal.
L'expérience rassemble des animaux communs comme le canard, menacés comme le panda roux, éteints ou très mignons, dans le but de rapprocher le visiteur du monde naturel.
Peut-être que le fait de dialoguer avec un objet nous fait sentir plus proche de lui, nous donne envie d'en prendre soin. En tant que musée d'histoire naturelle, c'est notre mission.
Le musée recueille les questions posées et compte s'appuyer dessus pour adapter sa collection aux attentes et aux intérêts des visiteurs. Emeline Van, de retour de Cambridge, RFI.
Et non loin de Cambridge, on joue au football en ce moment. Arsenal reçoit sur sa pelouse Liverpool pour le moment. Un partout entre les deux formations. C'est dans le cadre de la 9e journée de Première Ligue. 18h10 ici à Paris.